Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en français sous le titre « Le nazi et le psychiatre à la recherche des origines du mal absolu ». Cet ouvrage de non-fiction de l'historien et journaliste américain Jack Ely reconstitue la rencontre, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, entre Douglas M. Kelly et les principaux détenus nazis destinés au procès de Nuremberg. Jeune psychiatre de l'armée américaine, Kelly est chargé par les Alliés d'évaluer leur état mental afin d'établir s'ils peuvent être jugés et tenus responsables de leurs crimes. Au cœur du livre se trouve sa relation intellectuelle et personnelle avec Hermann Göring, figure dominante parmi les prisonniers. À partir d'archives, d'entretiens et du contexte judiciaire, Ely ne cherche pas à fournir une explication unique du nazisme. Il examine plutôt ce que l'expertise psychiatrique peut révéler et ne peut pas révéler face à des crimes politiques de masse. Le récit articule ainsi histoire de Nuremberg, psychologie médico-légale et interrogation morale sur la banalité humaine du mal. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, l'expertise psychiatrique comme condition préalable au procès de Nuremberg. Le point de départ du livre est une exigence juridique concrète avant que les hauts responsables nazis soient traduits devant le tribunal militaire international. Les alliés doivent s'assurer qu'ils sont aptes à comparaître. L'examen psychiatrique n'a donc pas pour fonction de relativiser les crimes ni de produire une excuse médicale. Il doit déterminer si les accusés comprennent la procédure, peuvent assurer leur défense et sont responsables de leurs actes. Jack Ely montre l'importance de ce cadre. Le procès de Nuremberg veut établir une justice publique, fondée sur des individus répondant personnellement de décisions et d'actes précis, plutôt qu'une simple vengeance des vainqueurs. Douglas Kelly intervient à l'intersection de la médecine, du droit et de la politique. Ses entretiens et ses tests doivent fournir une appréciation clinique. Mais il se déroule dans un environnement exceptionnel, les patients sont des dirigeants vaincus, associés à une guerre d'agression, à la persécution et au meurtre de masse. Cette situation oblige à distinguer deux questions souvent confondues, être capable de commettre des actes moralement monstrueux et être atteint d'une maladie mentale invalidante. L'ouvrage insiste sur cette distinction. Comprendre le fonctionnement psychique des détenus ne diminue pas leur imputabilité. Au contraire, constater leur lucidité renforce l'idée qu'ils ont pu participer consciemment à l'entreprise criminelle nazie. Deuxièmement, Hermann Göring, un détenu qui transforme l'entretien en rapport de force. Hermann Göring occupe une place centrale parce qu'il n'est pas seulement l'un des accusés les plus importants, il est aussi un interlocuteur particulièrement habile. Ancien dignitaire du Reich, doté d'un sens aigu de la mise en scène et de l'autorité, il ne se présente pas passivement à l'examen. Il cherche à contrôler l'image qu'il donne, à imposer son interprétation de l'histoire et à évaluer celui qui l'évalue. Le livre met ainsi en lumière une difficulté méthodologique de toute enquête clinique. L'entretien n'est jamais un accès transparent à la vérité intérieure d'un sujet. Surtout lorsque celui-ci possède de fortes capacités de manipulation, de rationalisation et de séduction. Kelly est sensible à l'intelligence, à la présence et à l'assurance de Göring. Cette fascination est un élément analytique majeur, car elle rappelle que le charisme peut produire des effets même après la défaite politique et l'incarcération. Ely ne réduit pas Göring à un diagnostic simpliste. Il le restitue comme un acteur conscient de ses intérêts, capable de justifier, de minimiser ou de détourner la discussion. Le face-à-face révèle donc moins un mystérieux secret du mal qu'un mécanisme social et relationnel l'ascendant d'un chef peut persister quand son interlocuteur croit pouvoir. L'observer de l'extérieur, sans être affecté par lui. Troisièmement, refuser l'explication commode des crimes nazis par la folie. L'une des thèses les plus dérangeantes du livre est que les responsables nazis examinés ne peuvent pas être commodément écartés du champ humain sous l'étiquette de la démence. Leur violence, leur antisémitisme et leur participation à des crimes immenses ne les rendent pas automatiquement incapables de raisonner ou inconscients de leurs actes. Cette idée possède une portée historique et morale décisive. Si les auteurs de crimes de masse étaient uniquement des êtres psychiquement aberrants, il serait possible de considérer le nazisme comme une anomalie étrangère aux institutions ordinaires, aux ambitions de carrière, à l'obéissance et au calcul de pouvoir. Or, l'enquête de Kelly, telle qu'elle est la rapporte, conduit à une réalité plus inconfortable des individus socialement compétents. Stratèges et parfois cultivés peuvent adhérer à une idéologie exterminatrice et agir dans son cadre avec détermination. Cela ne signifie pas que la psychiatrie est inutile. Elle permet notamment d'écarter des hypothèses trop faciles et de préciser les limites de la responsabilité pénale. Mais elle ne remplace ni l'analyse politique des structures du régime, ni l'examen des choix personnels. Le livre invite ainsi à ne pas médicaliser abusivement le mal politique. La lucidité des accusés ne les rend pas moins coupables. Elle rend au contraire plus visible leur responsabilité dans l'organisation, la justification et la poursuite de la violence d'État. Quatrièmement, Douglas Kelly, les limites éthiques de l'observateur face à son objet d'étude. Jack L.I. fait de Douglas Kelly bien davantage qu'un expert militaire chargé de tests, il en fait un second sujet d'enquête. Le psychiatre s'investit largement dans l'étude des détenus, en particulier de Göring, et prolonge intellectuellement cette expérience au-delà de la mission initiale. Cette place accordée à Kelly donne au livre sa singularité. Il ne raconte pas seulement ce que la psychiatrie a observé chez les nazis. Il examine ce que la proximité avec eux peut produire chez celui qui prétend les analyser. Le risque n'est pas une contamination mécanique par le mal, explication que le livre ne traite pas comme une certitude clinique. Il réside plutôt dans l'identification, la surestimation de sa propre distance critique et l'attrait exercé par un interlocuteur exceptionnel. L'expert dispose d'un savoir et d'une autorité, mais il n'est pas pour autant immunisé contre les jeux de pouvoir, la curiosité personnelle ou le désir de percer une énigme. Le parcours ultérieur de Kelly, marqué par une dégradation personnelle et son suicide au cyanure en 1958, donne une résonance tragique au récit. L.I. ne prétend pas établir une causalité simple entre Nuremberg et cette mort. Il invite au contraire à respecter l'incertitude tout en prenant au sérieux le coût possible d'une confrontation prolongée avec la violence. La manipulation et les frontières fragiles entre observateurs et observés. En dernier lieu, une enquête historique où la psychologie ne remplace pas l'analyse du système nazi. Le livre se distingue par son refus de chercher une clé psychologique totale au nazisme dans la personnalité d'un seul dirigeant. Les entretiens de Kelly offrent un point d'observation rare sur les accusés de Nuremberg, mais L.I. les replace dans un cadre plus large, l'effondrement du Reich. La préparation d'un procès international et les stratégies défensives d'hommes confrontés à la défaite. Cette mise en contexte est essentielle, car les propos recueillis en prison ne sont jamais séparables de l'enjeu judiciaire. Les détenus ont intérêt à apparaître raisonnables, à se présenter comme de simples exécutants ou à déplacer la responsabilité vers Hitler, le régime, la guerre ou les vainqueurs. Le lecteur est ainsi conduit à considérer les matériaux psychologiques avec prudence, il documente des attitudes, des mécanismes de justification et des rapports de domination, sans constituer une confession pure. L'ouvrage propose une articulation féconde entre l'échelle individuelle et l'échelle institutionnelle. Les crimes nazis ont été commis par des personnes responsables, mais aussi rendus possibles par une idéologie, des administrations, des hiérarchies et un appareil d'État. Cette double perspective évite deux réductions symétriques attribuées toute l'histoire à des tempéraments individuels, ou dissoudre entièrement les choix personnels dans le fonctionnement d'un système. C'est dans cette tension que le livre situe sa réflexion sur les origines du mal. En conclusion, le nazi et le psychiatre s'adressent aux lecteurs d'histoire de la Seconde Guerre mondiale et du procès de Nuremberg, mais aussi à ceux qui s'intéressent à la psychiatrie légale, à la criminologie et aux problèmes éthiques de l'enquête sur les auteurs de violences extrêmes. Il ne faut pas l'aborder comme un traité clinique proposant un diagnostic définitif des dirigeants nazis. Son apport est plutôt de montrer comment une expertise psychiatrique s'insère dans une situation judiciaire et historique sans précédent, avec ses ressources, ses angles morts et ses effets sur l'expert lui-même. Le lecteur y gagne des repères utiles pour distinguer maladie mentale, responsabilité pénale, idéologie et rationalisation politique. Il comprend aussi pourquoi l'explication des crimes de masse ne peut se satisfaire ni de la figure rassurante du monstre, ni d'une psychologie isolée du contexte institutionnel. Par rapport à des récits plus généraux sur Nuremberg ou à des biographies centrées exclusivement sur Hermann Göring, l'ouvrage se démarque par son double portrait. L.I. analyse simultanément le détenu et le psychiatre, le pouvoir de séduction du premier et la vulnérabilité intellectuelle du second. Cette construction donne une profondeur particulière à son enquête, l'étude du mal devient également une réflexion sur les conditions dans lesquelles on cherche à le connaître. Fondé sur une documentation historique et porté par une question précise, le livre offre donc une entrée originale, rigoureuse et troublante dans l'après-guerre immédiat. Si vous souhaitez soutenir Jack L.I., vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.